Vous connaissez sans doute, sœurs et frères, la manière dont saint Paul donne aux Corinthiens une synthèse des apparitions de Jésus ressuscité. Il est apparu à Képhas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi, comme l'avorton. Il me semble, mais je peux me tromper, que saint Paul ne s'est pas bien renseigné sur ce coup-là. En oubliant de mentionner spécifiquement les femmes premières au tombeau le matin de Pâques. Et j'entends déjà le murmure qui gagne notre assemblée, et je vois plusieurs femmes, même des sœurs ici dans le chœur, prêtes à se lever comme un seul homme pour dénoncer le machisme de ce bon vieux saint Paul. Mais calmons-nous, mes sœurs, en ce matin de Pâques. Nous ne sommes pas là pour chicaner, nous sommes là dans ce matin de fête. Et à saint Paul, on lui fera sa fête une autre fois. Oui, Paul a oublié les femmes, mais elles sont pourtant bien là dans les récits de la résurrection, dans celui que nous venons d'entendre, Marie-Madeleine. Mais si cela peut vous consoler, mes sœurs, saint Paul n'a pas oublié que vous. Il y a d'autres témoins de la résurrection qui sont restés dans l'oubli. Jamais on n'en parle. Jamais un frère de l'école biblique et archéologique de Jérusalem n'a écrit de savant ouvrage ayant pour titre « Le témoin oublié ». Et je dois avouer que moi-même, jusqu'à il y a quelques jours, j'ignorais totalement ce témoin oublié. Je l'ai découvert en cherchant une photo faite au musée Unterlinden à Colmar, dans l'ancien couvent de nos sœurs dominicaines. Sur la partie d'un retable de l'église des Dominicains qui représente l'apparition à Marie-Madeleine. Vous avez normalement reçu cette petite carte à l'entrée dans cette église. Pour voir de quoi je parle, vous pourrez garder cette image en sortant de l'église si vous avez été sage et si vous avez bien chanté pendant la célébration. Vous ne le voyez peut-être pas tout de suite, tellement pris par la beauté de la scène qui se passe entre Jésus ressuscité et Marie-Madeleine, mais le témoin oublié est bien là sur la photo, comme on dirait aujourd'hui. Regardez sur les branches de l'arbre, en haut, à gauche. Il y a deux oiseaux, deux, comme les larrons à l'heure de la croix. L'un ne semble pas concerné par la scène, alors que l'autre, au contraire, semble fasciné par la belle rencontre entre Marie et son Seigneur. Cet oiseau, frères et sœurs, a toute une histoire et n'est pas là par hasard. Il m'a raconté son histoire. Alors, je vous la transmets. 3 jours plus tôt, m'a-t-il dit, la veille du Shabbat, alors qu'un coq venait de chanter, comme tous les autres oiseaux, il avait arrêté de chanter, sentant qu'un danger, qu'une catastrophe était proche. Vous savez, comme lorsque les oiseaux s'arrêtent de chanter à l'approche d'un tsunami. Il avait alors fui, comme tous les autres animaux, sentant par instinct que toutes les forces des ténèbres avaient décidé de se réunir. Il ne savait pourquoi, ce jour-là, à Jérusalem. Alors, il avait fui. Il avait fui vers la mer Morte pour se réfugier dans ces fameuses grottes autour de la mer Morte à flanc de montagne. Et c'est là qu'il avait vu la nuit arriver en plein jour. C'est là qu'il avait senti la terre trembler et qu'il avait paniqué à l'idée que cette grotte allait peut-être s'effondrer sur lui et devenir son tombeau. La peur faisait grelotter son petit corps d'oiseau. Lorsque la lumière était revenue, pas un son, pas un chant ne pouvait sortir de son gosier. Il était incapable de chanter, comme le lendemain d'ailleurs, alors que le temps et la vie semblaient suspendus dans un grand silence. Il avait d'ailleurs préféré, par peur, par sécurité, rester au fond de sa grotte. Le troisième jour, une brise légère l'avait réveillé. Le soleil se levait sur la mer morte, si belle dans la lumière du matin. Pourquoi mer morte, d'ailleurs, se dit-il, alors que tout lui paraissait si vivant ce matin. Il s'était raclé la gorge, pensant que tout allait revenir, mais il était toujours incapable de chanter. Pourtant, tout lui semblait léger. Alors il s'était envolé vers Jérusalem pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, s'attendant à découvrir, sans doute, une catastrophe. La ville et peut-être son temple, dévastés, détruits, par la puissance destructrice de son instinct, lui avait dicté de fuir. Pourtant, alors qu'il était arrivé au-dessus de la ville, tout semblait paisible. Apparemment, rien n'avait été détruit. La ville était intacte. Le temple était toujours là. Son instinct l'aurait-il trahi? C'est alors que son œil est attiré par un endroit qu'il n'avait jamais remarqué auparavant en volant au-dessus de Jérusalem. C'est un jardin rempli de fleurs resplendissantes, éclairées par un rayon de soleil. Fasciné par le lieu, il se pose sur la branche du grenadier que vous avez sur la photo. Et un collègue à lui arrive aussi. Qu'il est beau ce jardin, se dit-il. Comme il sent bon, comme il respire la paix, quelque chose d'extraordinaire émane de ce jardin. Et il ne saurait dire, il ne saurait chanter pourquoi. D'autant plus que dans ce jardin, il y a un tombeau ouvert, et un tombeau autour duquel il y a vraiment beaucoup d'agitation ce matin, beaucoup d'allées et venues. C'est très bizarre, toutes ces allées et venues autour d'un tombeau. Des femmes arrivent avec des aromates, mais pour quoi faire puisque ce tombeau est ouvert et donc vide. À peine entrées, elles sont déjà parties, comme si elles étaient effrayées. Puis deux hommes arrivent en courant, un vieux et un jeune, qui laissent entrer l'aîné en premier, avant tous les deux de repartir, eux aussi. Décidément, ça va et ça vient dans ce jardin en ce matin. Seule une femme est restée là et semble attendre quelque chose, anéanti de chagrin. Alors arrive quelqu'un qui, se dit-il, doit être le jardinier et que la femme prend à partie. Il n'entend pas bien ce qu'ils se disent, mais à un moment, oh oui, ce moment, il s'en souviendrait toute sa vie d'oiseau, à un moment, la femme lance ce cri comme une explosion de joie, « Rabouni !» Comme si ce jardinier n'était pas un jardinier comme les autres. Et d'ailleurs, un jardinier n'aurait pas les pieds, les mains et le côté avec de telles cicatrices. Rabouni, Seigneur. Le cri de joie de cette femme traverse tellement l'espace que l'oiseau lui aussi tressaille de joie et se met à chanter. Oui, à chanter. Son instinct lui dit de chanter parce que quelque chose d'extraordinaire vient d'arriver. Alors il chante. Il a enfin retrouvé son chant. Ils chantent, et c'est comme si tous les oiseaux avaient attendu ce signal, comme une traînée de poudre, une traînée de joie, de toutes les collines qui entourent Jérusalem, des milliers d'oiseaux se mettent à chanter dans la belle lumière de ce premier matin. Et parmi eux, les coqs qui chantent de nouveau pour saluer le matin nouveau. Oui, frères et sœurs, tous les oiseaux chantent, rejoignant par leurs chants les chants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Les chants d'Israël, chantez au Seigneur un chant nouveau, en Israël pour son joie pour son Créateur, dans Sion allégresse pour son roi. Le chant du cœur des séraphins, qui célèbre éternellement la sainteté de Dieu, saint, saint, saint le Seigneur, sa gloire remplit toute la terre. Le chant des générations à venir aussi, qui sur toute la terre chanteront après ce premier matin, Alléluia, le Christ est ressuscité des morts. Cet oiseau, sur sa branche de grenadier, frères et sœurs, a déclenché une nouvelle louange, le chant d'un peuple qui rend grâce devant ce tombeau vide. Ce tombeau vide qui veut dire que la mort a été vaincue, que Jésus le crucifié est sorti vivant du tombeau par la puissance du Père, et que cette vie, il nous la donne dans le bain du baptême pour vivre, nous aussi, éternellement. Cet oiseau, sur sa branche de grenadier, regardez-le encore une fois, nous regarde aussi par-delà le Seigneur et Marie-Madeleine. Et il semble nous dire, à chaque fois que vous entendez un oiseau chanter au lever du soleil, souvenez-vous que Jésus est ressuscité des morts et chantez avec lui la gloire de Dieu. Amen.